Donc c'est une surprise pour personne. Cette année, on va donc travailler le personnage de Josué. Il se trouve qu'il y a un livre de la Bible qui lui est consacré. Mon problème, c'était simplement que quand on attaque le livre de Josué, Josué est déjà responsable du peuple, successeur de Moïse. Et moi, ça ne m'allait pas trop. Je me suis dit quand même, c'est vrai que je n'avais pas énormément de souvenirs de Josué avant ça, si ce n'est les premiers espions qui ont visité Canaan. Je me suis dit, mais il a eu une vie avant, cet homme-là. Ce n'est pas possible. Donc, eh ben, j'ai cherché, mais ça n'a pas été facile. Vous allez voir, ce n'est pas évident. Simplement, avant de nous lancer dans l'étude du personnage de Josué, je veux rappeler, je sais que je me répète, mais pour moi, c'est très, très important. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ce n'est pas simplement pour raconter les histoires de la Bible et pour vous distraire pendant une demi-heure ou plus, parfois, hélas. Mais c'est parce qu'il y a des passages très clairs dans la Bible qui nous disent que tout ce qui a été écrit dans la première partie de la Bible, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, a été écrit avec un but précis. Ce n'était pas pour raconter l'histoire, pour faire des chroniques, comme tous les rois, tous les gouvernements tiennent des chroniques de ce qui se passe, plus ou moins arrangées en général d'ailleurs. Ce n'est pas le but de la Bible. Elle a raconté les histoires de la formation d'Israël, l'histoire des patriarches, etc. Pas pour satisfaire notre intellect ou notre curiosité. Et c'est important de toujours s'en rappeler, parce que malheureusement, parfois, il y a des gens qui abordent la Bible en se disant « Ah, mais c'est pas précis, elle dit pas tout, elle oublie, elle saute certains événements, pourquoi ?» On s'aperçoit, par exemple, quand maintenant, on découvre de plus en plus de tablettes de cette époque. Donc on remonte à presque 2000 avant Jésus-Christ, hein, faut pas oublier, c'est pratiquement 4000 ans pour nous. On dit « Ah, mais les Assyriens parlent de ça, la Bible n'en parle pas. » Bah oui, parce que ça ne l'intéressait pas. La Bible n'est pas là pour faire une œuvre d'histoire. Mais il n'empêche, et c'est pour ça que je demande aux enfants de coller des choses qui viennent de leur livre d'histoire, parce que la Bible est historique. Elle n'est pas un livre d'histoire, mais les événements sont historiques. Et on le retrouve à toutes sortes de détails, pas seulement avec les dates des batailles, qu'on peut recouper très facilement, quand on retrouve des tablettes, ce qui est le cas souvent. Mais elle est historique aussi dans son approche, dans sa civilisation, dans les rites, les coutumes des peuples. On voit que ça se recoupe parfaitement avec l'histoire de l'époque. Donc la Bible n'est pas un conte de fées. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire croire ça. Non, ce n'est pas un conte de fées. Pas du tout. Et pourquoi toutes ces choses ont été écrites? Alors vous savez, quand on lit l'Ancien Testament, souvent on retrouve cette phrase, je ne sais pas combien de fois elle est répétée, mais il y a des gens qui ont dû calculer ça pour moi, « Afin que l'on sache que je suis l'Éternel ». Et c'est un peu ça. Dans la deuxième lettre à Timothée, c'est l'apôtre Paul qui écrit ceci. « Quant à toi, » et là il s'adresse à un tout jeune homme, « Quant à toi, demeure dans ce que tu as appris, ce dont tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta plus tendre enfance, tu connais, certaines versions disent les saintes lettres, les écrits sacrés dans ma traduction. Ils peuvent te donner la sagesse. » À l'époque, les gens cherchaient la sagesse chez les Grecs. Mais là, c'est la sagesse de Dieu, en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner. J'aime mieux cette traduction, d'ailleurs, elle est plus claire. Toute écriture inspirée de Dieu est utile. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est utile. Pour enseigner, pour réfuter, c'est-à-dire contredire, pour redresser, pour éduquer dans la justice. La justice, ce n'est pas simplement « ce n'est pas juste ». C'est la justice, la justesse aussi de tout ce qu'on doit faire. « Afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur », j'aime bien cette traduction, « parfaitement équipé pour toute bonne œuvre ». Le but, c'est que nous, on soit à la hauteur, parfaitement équipé. Donc, vous voyez, on est loin du livre d'histoire, on est loin du conte de fées. À l'église de Rome, Paul va dire ceci, « Tout ce qui a été écrit autrefois, on est en plein dedans puisqu'on va étudier Josué, a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance et par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. » C'est vrai que c'est triste de ne plus avoir d'espérance. Combien de gens se suicident parce qu'ils n'ont plus d'espérance? La parole de Dieu nous donne cette espérance. Et c'est pour ça qu'il faut la lire. À l'église de Corinthe, Paul va dire quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Tout cela est arrivé, il parle de tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, donc entre 2000 et 0, hein, jusqu'à la naissance de Jésus. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple. Et ça a été écrit pour nous avertir. Et pas pour nous divertir, je dirais, pour nous avertir. C'est pas non plus pour instituer une religion. Jamais vous trouverez ça dans la Bible, établir une religion. Non, pour nous avertir. C'est un message personnel. C'est pas un message global pour établir une église, une nouvelle religion ou autre, mais pour nous avertir que l'Éternel est Dieu, qu'il fait ce qu'il veut, comme dit la Bible. Alors voilà pourquoi chaque année on suit un personnage de la Bible, modèle à suivre ou parfois à ne pas suivre, parce que justement ils ont commis des erreurs, si on peut les éviter, c'est pas plus mal. Et alors j'ai été frappée cette année par toutes sortes de commentaires sur le livre de Josué, parce que vous savez, quand je prépare ces études sur les personnages, j'ouvre tout un tas de livres, la table est pleine, je suis un vrai rat de bibliothèque, c'est un défaut qui m'est resté depuis les études. Et j'étais frappée par les commentaires sur le livre de Josué qui résume souvent le livre comme ça. Conduit par Josué, là j'ai pris une des citations. Les Israélites réussissaient dans la mesure où ils obéissaient à Dieu. Et je dis, ça tombe bien. Le thème de l'obéissance, c'est celui qui est évoqué tout le temps par les commentateurs de Josué. Même parfois, si vous regardez dans vos Bibles, si vous lisez l'introduction au livre de Josué, vous allez voir certainement ce mot-là. Il se trouve que c'est le thème pastoral de l'année 2011, donc je crois que ça correspond très bien. Alors quand on pense à Josué, on pense tout de suite conquête de Canaan. Je pense que même ceux qui ne connaissent pas très très bien la Bible, Josué, conquête de Canaan. Canaan étant l'actuel état d'Israël, ils sont revenus 2000 ans plus tard, après en avoir été évacués. Donc Canaan, pays promis par Dieu à Abraham et à ses descendants. Jacob s'y était déjà bien installé quand il est rentré. Vous vous souvenez, l'année dernière, on a étudié Jacob et on l'a vu se réinstaller dans le pays où Abraham était venu, où Isaac a vécu. Conquête de Canaan, oui, c'est Josué qui l'a mené. Cette conquête de Canaan représente pour nous aujourd'hui plusieurs choses. Alors, vous savez, dans les vieux gospels des États-Unis, Canaan, c'était la libération de l'esclavage. C'était vers Canaan, vers le ciel. Quelque chose d'un peu insaisissable, mais qui représentait le repos, la liberté. On l'a encore dans certains cantiques. Hein. Canaan, moi je trouve, pour moi c'est pas tellement le ciel, Canaan. Parce que j'espère quand même que c'est mieux que ça. Parce que Canaan, c'est pas drôle quand même, il y a encore pas mal de guerres. Hein. Oui, les sœurs de Tamchat, c'est vrai, ont appelé l'endroit où elles habitent Canaan. Et elles savent d'ailleurs qu'elles ont dû conquérir certaines parties avec la prière. Ah, ils ont eu des soucis. Alors, cette conquête de Canaan représente aussi pour nous, et là, je suis plus d'accord, le parcours parfois difficile de notre vie. Est-ce que dans notre vie, on n'est pas en train de conquérir un Canaan? Notre progression quotidienne, nos victoires, nos échecs, notre foi dans les promesses de Dieu et nos épreuves. Je crois que ça, si on peut facilement identifier Canaan, la conquête de Canaan, à ce qu'on vit, nous, au quotidien. Nos épreuves, nos soucis, etc. Notre Canaan peut être aussi parfois l'accomplissement de telle ou telle promesse où Dieu attend qu'on fasse la part qui nous revient. Parce que Dieu nous fait des promesses, mais c'est jamais magique. Jamais. Quand Dieu nous fait une promesse, il attend une collaboration de notre part. C'est jamais « je t'ai promis ça, ça va se réaliser ». Non, ça ne se réalisera pas si je ne participe pas. Et c'est ça que j'aime bien dans la foi chrétienne. C'est que c'est pas magique. C'est merveilleux, mais c'est pas magique. Alors, c'est vrai que la conquête de Canaan peut ressembler à ce qu'on vit en tant que chrétien, avec cette première étape, le passage de la mer Rouge, la sortie d'Égypte, qui est souvent dans la Bible comparé au salut. Malheureusement, beaucoup de gens s'arrêtent là. Et on s'aperçoit qu'après la sortie d'Égypte, il y a eu les rouspétances, les murmures, disent les versions second. Ça rouspétait beaucoup. Et malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là. On a accepté le salut en Jésus-Christ, et on a passé la mer Rouge, on est enfin libéré de l'esclavage, du péché, de la mort. Et puis, on passe sa vie à rouspéter, parce que les choses ne vont pas toujours comme on voudrait. C'est l'occasion aussi de construire quelques veaux d'or. Bon, la seule différence avec les Cananéens, c'est qu'on a quand même la faculté de se repentir, de demander pardon à Dieu, et on voit quand même le peuple d'Israël le faire régulièrement. Mais c'est dommage d'en rester là. Il y a une deuxième étape où il va falloir abattre des forteresses, rentrer dans la guerre, obéir aux ordres. Là, c'est plus difficile. Et parfois aussi, il y a des gens qui s'arrêtent là. Oh bah ils vont jusqu'au fait d'abattre des forteresses, de dire non, je vivrai pas sur mes propres idées, sur ma propre sagesse. J'abats les forteresses de ma culture, de mes habitudes. Je veux vraiment suivre le Seigneur, faire ce qu'il veut. C'est une deuxième étape. Il y en a aussi qui s'arrêtent là. C'est bien, mais ils sont toujours un peu en guerre. La troisième étape, c'est celle dont on rêve tous. Hein. Quand Dieu dit à Moïse, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. On s'installe en Canaan. Et là, on a un repos. Il est relatif, mais un certain repos. C'est-à-dire qu'on n'est plus toujours là en train de combattre. On a abattu les forteresses qui étaient nécessaires d'abattre. Et on construit notre vie sur Christ, sur ses valeurs. Et là, il y a un travail. C'est pour ça que je dis repos. Mais on se repose sur Christ. On compte sur lui pour faire les choses. Non plus sur nos forces. Voilà un petit peu ce que ça représente. Donc, on reparlera certainement de ces comparaisons au fil du temps. Alors, il y en a plusieurs qui ont sans doute commencé, parce que j'avais demandé qu'on lise le premier chapitre de Josué. Mais moi, j'étais un peu frustrée, parce que quand on commence le premier chapitre de Josué, on se dit, mais d'où il sort celui-là ? Il a eu une vie avant, quand même. Là, on le voit, il est successeur de Moïse, mais qu'est-ce qu'il a fait avant ? Et moi, je suis très curieuse. Qu'est-ce qu'il a fait avant, Josué ? D'où est-ce qu'il vient ? Comment est-ce qu'il est devenu le successeur de Moïse ? Alors, on va revenir en arrière. Et là, pour les enfants, écoutez bien. Là aussi, je radote, mais c'est exprès. Vous savez que mes cinquièmes, maintenant, ils ont le schéma parfaitement en tête. Depuis le début de l'année, je leur serine. Qu'est-ce qu'il y a dans la Genèse ? Première chose, qu'est-ce qu'il y a dans la Genèse ? Première chose de la Genèse, premier livre de la Bible, la création. Après, il y a l'histoire, Adam et Ève, la chute, la désobéissance à Dieu. Puis, ils ont des enfants, Caïn et Abel, ça se passe mal aussi. Caïn tue Abel. Et puis, il y a du temps qui passe, il y a l'histoire de Noé, encore du temps qui passe, vous connaissez tous l'histoire de Noé. Puis on a le démarrage de la vie d'Abraham. Et on trouve Abraham dans un pays super évolué, et là j'ai encore relu des tas de choses, c'est merveilleux hein, cette période. Super évolué, une civilisation assez avancée. Et Abraham s'en va sur l'appel de Dieu en Canaan, actuel Israël. Et là, ils deviennent nomades. Et ils vont rester plus ou moins nomades, même s'ils installent leur tente dans différents endroits d'Israël. Et on va voir Abraham, son fils s'appelle Isaac. Et l'autre de l'année dernière, c'était Jacob. Donc Abraham, Isaac, Jacob, c'est les trois patriarches. Donc vous voyez, on n'est pas très loin encore, parce que l'année dernière, on a vu que Jacob a une vie bien compliquée. Trompeur, il s'est fait tromper à son tour. Résultat, il s'est retrouvé avec deux femmes alors qu'il n'en voulait qu'une. C'est embêtant. Très manipulateur, il s'est trouvé à son tour manipulé. On pourrait l'appeler boomerang, le pauvre Jacob, parce que tout lui revient toujours dans la figure. Très manipulateur, il a été à son tour manipulé. Il s'est retrouvé avec quatre femmes, encore plus embêtant. Et 12 fils et une fille. La Bible nous montre que, hein, vous vous rappelez l'année dernière, Jacob a été travaillé par Dieu. Pas mal de ses bêtises lui sont revenues dans la figure, il a dû gérer, il a dû demander pardon. Et puis il y a eu cette merveilleuse rencontre où Dieu va changer son nom. Très important les changements de nom dans la Bible, en Israël, celui qui lutte avec Dieu. Et puis il va revenir dans le pays que Dieu avait donné à ses pères, donc Abraham, Isaac, Jacob. Il revient et il s'y installe avec sa famille. La promesse donc faite aux patriarches qu'ils auraient ce pays, elle est accomplie. Ça pourrait s'arrêter là. J'ai toujours été étonnée qu'en fait, tout était accompli. Il pouvait maintenant se multiplier. Il avait 12 fils. Vous savez, quand on fait un peu les calculs, ça va très vite. 12 fils, ils en ont chacun 10. Vous voyez, en quelques années, ils pouvaient remplir le pays de Canaan. Tout allait bien à la fin de l'histoire de Jacob. Il y avait un hic. Joseph, le fils préféré de Jacob, il se rend tellement odieux à ses frères, parce qu'il était bien conscient d'être le chouchou, il le faisait sentir. Ils le vendent à des Madianites qui l'emmènent esclave en Égypte. Ils font croire à Jacob qu'il est mort. Jacob pleure toutes les larmes de son corps. Et en Égypte, il réussit, il prospère parce qu'il aime Dieu. Et il commence à se corriger tout doucement. Il s'installe en Égypte. Tout va bien pour lui. Il est bras droit de son patron. Il gère tout un domaine. Il est accusé faussement, il se retrouve en prison. Ça, c'est horrible. Accusé injustement, il se retrouve en prison. Mais c'est grâce à ça qu'il va rencontrer les chansons, c'est-à-dire celui qui servait à boire au Pharaon, et qui va se retrouver plus tard premier ministre d'Égypte. Alors ça m'a fait réfléchir en faisant ce petit résumé, combien de choses dans notre vie qu'on a jugées négatives sont devenues les plus positives pour notre avenir. Si on réfléchit un petit peu, ça arrive souvent. Et plus on vieillit, plus on en a des choses comme ça. Ou quand on les a vécues, on a dit « c'est pas juste, c'est pas possible, Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'aimes plus, ». Et puis on s'aperçoit avec les années qui passent, c'est ça qui m'a permis d'être là où je suis, c'est ça qui m'a permis de réussir dans tel et tel domaine, c'est ça qui m'a béni. Ça se passe souvent comme ça. C'est curieux, mais il faut le reconnaître. Donc ne désespérons pas si vous êtes dans des moments difficiles. Qui sait, c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de vivre quelque chose de meilleur derrière. Devenu premier ministre, il pardonnera tellement bien à ses frères qu'il les invitera à rester en Égypte avec leur vieux père Jacob. Ils s'installent en Canaan ? Non, en Égypte. Alors là, ça ne va pas. Ils étaient tous installés là où Dieu avait promis. Et voilà une énorme boucle qui va durer 430 ans. Alors là, les archéologues se battent. On n'arrive pas à les mettre d'accord. Il y en a qui sont pour un délai plus court, mais la Bible dit 430 ans. Donc moi, j'en reste sur les 430 ans. C'est-à-dire qu'on a du mal à accorder différents événements entre les pharaons, les Hyksos, les Apirous. Enfin, c'est tout un truc. Si vous voulez plus de détails, je vous les donnerai. C'est assez compliqué, mais la Bible dit 430 ans. On va rester là-dessus. Le fait est que personne ne peut nier qu'ils sont restés en Égypte pendant une longue période. Voilà. Une grande boucle. Ils ne sont plus en Canaan. La promesse est tombée à l'eau. Et combien de fois aussi dans notre vie, on voit ça. Mais Seigneur, ça y était presque, et pan, tu me fais me faire une boucle. Complètement, voilà, je repars à zéro. Dieu avait un plan. Dieu avait un plan extraordinaire pour modeler ce peuple. Et c'est en Égypte que Jacob va bénir ses 12 fils. En leur donnant à chacun, j'aime beaucoup ce passage, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais on voit Jacob qui donne des promesses prophétiques à chacun de ses enfants, promesses qui se sont réalisées. C'est quand même extraordinaire. Mais alors, pour ce qui est de Joseph, son petit chouchou, il va avoir un truc un peu spécial. Il va lui faire venir, il va le faire venir avec ses 2 fils, Éphraïm et Manassé. Et là, Jacob va suivre ce que Dieu lui a demandé. Cette fois-ci, il ne se fait pas rouler. Il ne roule personne. Il n'est plus manipulateur comme il a été. Il fait ce que Dieu lui demande. Et Éphraïm était le petit, Manassé le grand. Et normalement, c'est la main droite, la main la plus noble, qui est posée sur l'aîné. Et puis, l'autre main, sur le petit, sur le cadet. Donc, Joseph va lui présenter ses fils face à la bonne main. Mais Jacob va croiser ses mains pour que la droite soit sur le petit et la gauche sur l'aîné. Joseph, non, ne fais pas ça. Non, c'est comme ça que ça doit être. Et ça, moi, j'aime bien dans la Bible. Les coutumes. Mais Dieu, il aime bien les coutumes. Mais de temps en temps, il s'en moque éperdument. Dans la Bible, l'aîné avait sa valeur. Et dans presque toutes les familles, c'était bien respecté. Mais de temps en temps, imaginez que Dieu osait faire ce qu'il voulait. Et dans nos vies, c'est pareil. Restons pas à cheval. Moi, j'aime bien les coutumes, j'aime bien que les choses soient. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas rester à cheval sur nos habitudes culturelles, nos coutumes, parce que Dieu considère que c'est très bien. Il n'a rien contre. Mais de temps en temps, il veut garder sa liberté de faire ce qu'il veut, même si ça contrarie nos habitudes culturelles. Je ne parle pas de la morale ou de l'éthique, je parle de nos habitudes culturelles. Et ça, j'aime bien dans la Bible. C'est à ce petit côté, je crois, qu'il plaît aussi aux jeunes. Parce que les jeunes, les coutumes, les traditions, quand on est jeune, on a envie de remettre tout ça en question. Eh bien, Dieu, il aime ça aussi, remettre ça en question de temps en temps. Oh, pas régulièrement, mais de temps en temps, il va croiser. C'est rigolo, hein. Mais j'aime ça, c'est vivant. Alors, je comprends difficilement, parce qu'en fait, il va adopter ses 2 enfants. Le geste d'adoption était de mettre sur les genoux. Il va adopter Éphraïm et Manassé comme si c'était les siens, et non pas ses petits-enfants. Ça veut dire qu'au moment de la distribution des tribus, des chefs de tribus, Éphraïm et Manassé vont avoir chacun leur tribu. C'est pour ça que la question que je pose souvent à mes élèves, comment se fait-il que Lévi n'avait pas de tribu et qu'on a quand même 12 tribus ? Bah parce que Éphraïm et Manassé avaient chacun une tribu. Ils ont été adoptés comme des fils. Et bien que Lévi, en tant que prêtre, n'ait pas de tribu, on a quand même 12 tribus à cause de ça. Il fallait y penser. Dieu avait tout prévu, hein. Tout prévu. C'est pour ça dans la Bible qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il faut réfléchir. Parce que Dieu, en général, il a prévu. Alors, moi, ce qui m'étonne déjà, c'est que Éphraïm et Manassé ont été élevés par une maman égyptienne. Une maman égyptienne, Asnath, je crois qu'elle s'appelait, qui était fille d'un prêtre du soleil. Un prêtre égyptien. Et visiblement, ce qu'elle a transmis à ses enfants, c'était l'enseignement du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Waouh ! C'est encourageant. Très encourageant. Jacob va adopter ses deux garçons, il les bénit, et sur la tête d'Éphraïm, il va donner cette prophétie qu'Éphraïm, qui normalement est le plus jeune, sera le plus grand, l'ancêtre d'une multitude de descendants. Alors pourquoi vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait à nous parler d'Éphraïm ? Eh bien, Josué était un descendant d'Éphraïm, voilà pourquoi. Quand Jacob meurt, ses fils, avec la permission du Pharaon, vont l'enterrer en Canaan. Jacob avait insisté, attention, hein, ma place est en Canaan, même mort. Je veux être enterré à Canaan parce que c'est là que vous allez rentrer un jour. Il paraît que quand on lit dans la Bible, c'était une manifestation extraordinaire. Hein. Les Égyptiens étaient là, les pleureuses, ils l'ont embaumé à l'égyptienne. C'est aussi là qu'on voit la vérité de la parole de Dieu. Ils l'ont embaumé à l'égyptienne parce qu'ils avaient pris la culture égyptienne. Hein. Et puis ils l'ont emmené là-bas, ils l'ont enterré là où étaient Abraham, Isaac, Rebecca. Sarah, tout le monde était enterré là-bas. Donc, il est là-bas. Joseph, lui, il est mort. Il a été enterré en Égypte. Bon, il était quand même premier ministre. Ils l'ont enterré en Égypte. Par contre, il a fait promettre à ses descendants, surtout, vous emmènerez mes ossements parce que leur place est à Canaan. Mais curieusement, malgré tous ces rappels, le peuple, lui, s'installe en Égypte. Moi, je me demande pourquoi ils ne sont pas rentrés. Ben, parce qu'ils étaient aimés. Parce que ça se passait bien, parce qu'ils avaient du confort, parce qu'ils mangeaient très bien, des fruits, des légumes en abondance. Quand on voit, quand même, Israël, c'est pas évident. Hein. Maintenant, ils ont beaucoup travaillé sur l'irrigation pour avoir ce qu'ils ont. Hein. Mais c'était quand même pas si facile. Et il y avait cette facilité de vie en Égypte. Les tribus issues de Jacob se trouvent tellement bien en Égypte qu'elles s'y installent sans tenir compte de l'appel de Dieu à retourner chez eux. 430 ans. C'est fou quand même. Ils avaient eu tout le temps de rentrer quand c'était encore possible. Le confort, la sécurité, ils étaient sauvés de la famine en quelque sorte. Malgré tout, ils ont gardé leur identité. Ça, c'est incroyable, parce qu'ils ont continué à adorer leur Dieu. Alors, quand Moïse revient en Égypte, alors là je fais un grand bond en avant, hein, après malheureusement les pharaons qui avaient été favorables à Joseph sont morts, les années passent, 430 ans, c'est énorme. Et on arrive avec des pharaons qui n'ont pas connu Joseph, qui n'ont aucune reconnaissance envers ce que Joseph avait fait, et qui commencent à trouver que ce peuple qui est bien installé chez eux, ça commence à suffire. Tous ces immigrés qui sont là, et puis qui envahissent, qui deviennent tellement nombreux, avec une autre culture, un autre Dieu qu'on ne voit jamais. Ils en parlent, mais on ne le voit jamais. Ça commençait à... Hein, ça leur était lourd. Et ils essaient d'éliminer ce peuple, ils n'y arrivent pas. Finalement, ils le mettent en esclavage. Pas bête. Il va fabriquer ses briques et construire les monuments de l'époque. C'était pas les pyramides, je suis désolée, mais les archéologues nous montrent que c'était pas les pyramides. C'était d'autres monuments. Moïse, donc vous connaissez un peu son histoire, je vais pas la re-raconter. Moïse, donc, a dû fuir. Prince d'Égypte, élevé par la fille du Pharaon, sauvé des eaux. Il a dû fuir dans le désert, chez les Madianites. Madianites étaient des descendants d'Ésaü. Pas les Madianites. Ils étaient descendants d'Abraham par Ketoura, la troisième femme d'Abraham, quand Sarah était morte. Ketoura. Il s'était marié avec Ketoura. Il décide, Dieu lui parle un jour, et après 40 ans dans le désert, il lui demande de revenir. Revenir en Égypte, mais pour délivrer le peuple. Alors, je pense à ça parce que c'est là que je voudrais prendre l'histoire de Josué, parce qu'à mon avis, c'est là qu'il a dû commencer à prendre conscience de plein de choses. J'essaie de pas dire trop de choses, mais il y a quand même des choses qui doivent être dites. Ça signifie que quand Moïse va arriver, appelé par Dieu pour sauver les enfants d'Israël de l'esclavage, Josué était là, quelque part. Mais la Bible n'en parle absolument pas. Donc, qu'est-ce que je conclue simplement? Que enfant, puisqu'il avait une vingtaine d'années, quand 19, 18, 20 ans, on ne sait pas trop, quand Moïse est arrivé, est revenu, ça veut dire qu'enfant, il a connu la vie de l'Égypte, la vie d'esclave, l'autorité brutale des maîtres égyptiens. Alors, pour ceux qui ont la Bible NBS, vous avez des dessins très parlants qui ont été extraits de bas-reliefs de différents endroits. Vous allez voir, il y en a deux ou trois où on voit comment les Égyptiens faisaient travailler leurs esclaves, plus ou moins attachés. Ils les frappaient avec des fouets pour que ça aille vite. Hein. Donc, il a connu toute cette souffrance, les corvées, les coups, le mépris. Il a dû partager avec les autres Israélites l'impression, parce que vous imaginez, depuis 430 ans, que Dieu les avait oubliés. Parfois, on a cette impression en France aussi. Mais est-ce que Dieu a oublié ce pays? Ce pays qui met Dieu complètement à part de sa vie. Est-ce qu'il a oublié la France? Je ne crois pas. Il a un plan. Mais c'est vrai que parfois, on a cette impression. Nous, on n'est peut-être pas, on nous tape pas dessus, on n'est pas persécutés, mais on a un profond mépris de la part des gens qui ne sont pas croyants. Ça, c'est clair. Pour les Égyptiens, il y avait un dieu derrière chaque phénomène naturel. Le Nil, par exemple. Un dieu. Le pharaon lui-même était une sorte de médiateur entre le peuple et Amon-Ré, qui était le dieu du soleil. Il se considérait comme le fils de ce dieu. Donc, vous voyez, la religion était très axée sur le culte du pharaon aussi. Les prêtres servaient les dieux comme si c'était des souverains humains. Le peuple ne voyait les images des grandes divinités que dans des processions organisées les jours de fête. Ce qui explique, vous voyez, quand il y a la fête, on a envie d'un dieu qu'on voit. Ça a déteint un peu sur les Israélites. Donc Josué et les siens continuaient à crier à ce Dieu invisible, eux, qu'on ne voyait jamais, jamais, qu'avaient adoré leurs patriarches Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Mais rien ne se passait. L'esclavage continuait. Exode 3, 6 à 12 commence à donner une lueur d'espoir. Dieu parle à Moïse, yes.
Oui. J'aurais juste précisé quelque chose au fil de ce qu'on est en train d'entendre. Les idoles sont effectivement considérées comme des dieux qui ne parlent pas. Par contre, en Égypte, par exemple, on sait qu'ils animaient leurs idoles. C'est-à-dire qu'ils faisaient des idoles, des statues, et ils les animaient. C'est-à-dire qu'il y avait une consécration spéciale pour les animer. Ils étaient animés par quoi ? Par les démons. C'est-à-dire qu'il y avait des démons qui rentraient dans les statues, et donc quand ils parlaient, parce que soi-disant les dieux parlaient, hein, donc la parole de Dieu dit que les dieux parlent pas, enfin les idoles parlent pas, c'est vrai, ils sont muettes. Mais par contre, par un jeu de scène, un peu comme dans le théâtre, on animait, donc c'est les démons. C'est pour ça qu'on s'adresse à des démons. Et d'où Paul qui explique dans 1 Corinthiens 10, au niveau de la scène, etc., ne soyez pas avec les idoles, en communion avec les démons. Voyez. Et l'Égypte était spécialiste de ses secrets, et quand des gens sortaient, ils les fouillaient à la frontière de l'Égypte, ils les fouillaient pour voir s'ils n'emmenaient pas des secrets avec eux de la magie égyptienne. C'était la plus grande magie à l'époque qui existait, et c'est pour ça qu'il y a cette confusion parfois, mais oui, mais les idoles les parlent, oui. Mais attention, c'est les démons qui parlent.
Ouais. Il y a beaucoup de livres d'histoire hein, sur la religion égyptienne. Donc vous pouvez apprendre des tas de choses, parce que c'est quelque chose qui passionne les Français, curieusement. Vous voyez, le nombre de livres d'histoire sur la religion égyptienne, c'est remarquable. Donc, Exode 3, verset 7, « Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. » Et ça, si vous passez par des difficultés, c'est un verset à retenir. « J'ai bien vu ton affliction. » »« J'ai bien vu. » « J'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. » Dieu n'est pas dupe. Il dit pas, bon, allez, c'est pas grave. Non, j'ai bien vu les cris que lui font pousser ces tyrans. Je connais ses douleurs. Et dites-vous bien que Dieu connaît, même si Dieu ne se manifestait pas, il est capable de dire, je connais tes douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, etc. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, « Va, je t'envoie auprès du Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple. » Évidemment, vous connaissez l'histoire, Moïse n'est pas chaud du tout, il demande de l'aide. à Aaron, son frère, parce qu'il dit, moi, je ne parle pas suffisamment bien, aller dire tout ça au Pharaon. Bon. Alors, on va essayer de se mettre à la place de Josué, notre petit jeune homme qui est là, qui a vécu au milieu de cet esclavage, qui a souffert avec les autres. La Bible ne parle pas de sa famille, mais il y a quand même un indice. Vous savez ce que ça... Au début, d'abord, il ne s'appelait pas Josué. Il s'appelait José. Et ça voulait dire salut, délivrance. Ça veut dire, ça nous donne un indice sur sa famille, sur sa maman et son papa en tout cas, qui croyait fermement que la délivrance approchait. Sinon, il ne l'aurait pas appelé comme ça. Vous savez qu'à l'époque, quand on donnait un nom à un enfant, c'est parce qu'il y avait un événement particulier qui était attaché. Soit au moment de la naissance, soit un événement historique même, au niveau du royaume. Ah, si vous lisez à propos de Loami, le pays ne connaît plus le bonheur, ils avaient appelé leur enfant honte ou je ne sais plus quoi, Loami, etc. Donc c'était lié. Donc ça veut dire que ses parents croyaient que la délivrance approchait. Et ils ont appelé leur fils Salut ou Sauveur, José. Délivrance. Ah, ça nous donne un indice. Il y avait une foi dans sa famille, visiblement. Après, Moïse va changer son nom. Donc lui, il est là, il entend parler d'un certain Moïse qui rentre. Oh, Moïse, il était connu, hein. C'était un prince qui avait fui parce qu'il avait tué un Égyptien. Et la Bible nous dit que Moïse a rassemblé avec Aaron tous les anciens des Israélites. Alors la question que je me pose, est-ce que Josué était déjà ancien, 18-20 ans? On ne sait pas. Mais il était en tout cas au courant, puisque tous les anciens ont été... Donc le représentant de sa tribu d'Éphraïm était là. Et il a rassemblé tous les anciens, il leur a partagé les paroles du Seigneur et il a fait des signes devant eux, des signes miraculeux. J'imagine que Josué a été au courant et que ça a stimulé sa foi. Exode 4, 31 nous dit que le peuple crut. Ah, mais au début ça se passe bien, hein. Le peuple y a cru. Le peuple crut quand ils apprirent que le Seigneur intervenait en leur faveur, qu'il avait vu leur affliction, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Waouh, tout est gagné. Le peuple est avec Moïse, tout va bien, Moïse est venu les délivrer. Et puis, Moïse fait ce que Dieu lui demande. Et Josué, je pense, il a dû être choqué, comme les autres Israélites. Il a quand même dû être surpris par la réaction du Pharaon. Qu'est-ce qu'il dit, le Pharaon? C'est épouvantable. 5, verset 9. Accabler ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper et qu'ils ne prêtent plus attention à des paroles mensongères. Accablez-les de travail. Alors Josué, qui avait l'âge de travailler, a dû lui aussi, comme les autres, chercher la paille, alors qu'avant on leur fournissait la paille pour faire les briques. Vous savez que les briques étaient faites de paille et d'argile qu'on moulait et qu'on laissait sécher au soleil. Ça se fait encore, hein. Ça se fait encore. Donc il a dû avoir le double de travail et il fallait le même rendement. C'est-à-dire, on ne vous donne pas la paille, il faudra aller la couper, la prendre, etc. Et vous devrez faire le même nombre de briques. Accablez-les de travail. Et vous savez, moi, c'est un verset qui me trotte dans la tête depuis des années. En Europe particulièrement. Le diable, quand il voit un chrétien qui se lève pour servir Dieu, il a toujours la même réaction, presque toujours. Accablez-le de travail. Du jour au lendemain, son chef lui demande bien plus de travail, lui donne plus de responsabilités. Accablez-le de travail. Pourquoi? Pour qu'il ne prête plus attention aux paroles de Dieu, paroles de Moïse. Et c'est un sujet de prière, je pense, dans les familles chrétiennes, que le Seigneur intervienne. Parce que c'est un peu trop facile. Ça marche très bien en Europe. Accablez-les de travail, comme ça ils prêteront plus attention aux paroles de Dieu. Ils ne pourront plus. Ils n'auront qu'une idée, dormir. Se refaire des forces nouvelles. Et j'ai remarqué souvent que le diable utilise cette tactique pour nous réduire à l'inaction. C'est vraiment un gros sujet de prière dans certains cas. Donc Josué a vu la réaction aussi des responsables, ceux qui se sont prosternés, qui étaient tout heureux de la délivrance. Il a dû être choqué quand même, parce que lui, visiblement, avec le nom qu'il portait et la foi qu'on voit manifester dans sa vie après, je ne pense pas qu'il ait fait comme eux, j'ose espérer. Mais il a dû quand même être choqué. Au verset 21, voilà ce qu'ils disent à Moïse. Que le Seigneur vous regarde et qu'il juge. Ça, c'est les responsables, les anciens qui étaient tellement contents tout à l'heure. Vous nous avez rendu odieux au pharaon et aux gens de sa cour. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous tuer. Hein, vous leur avez donné le bâton pour nous battre. Moïse revint vers le Seigneur et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Mais pourquoi tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu ne l'as pas délivré. » Première étape, échec. Et pourtant, tout a été fait comme Dieu l'avait demandé. Méfiez-vous, c'est pas parce qu'on échoue qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais le peuple, lui, alors là, il n'en pouvait plus. Il dit, ah non, mais là, c'est pas possible, tu vois pas. Tu n'as fait que des bêtises, Moïse, que l'Éternel te juge. Attention, ça a commencé vraiment très mal. Je comprends pas d'ailleurs. Mais ça arrive dans notre vie aussi. On fait tout ce que Dieu nous demande et ça se passe mal. Vous allez certainement trouver des exemples dans votre vie. Ça ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné, ça ne veut pas dire que son plan ne va pas se réaliser. Ça veut dire qu'il y a une épreuve, qu'il y a une difficulté, point. Je pense que Josué a su le comprendre, voyant son caractère après, mais il a assisté à tout ça. Hein. Mais il a dû entendre quand même les promesses de Dieu qui étaient dans la bouche de Moïse. Et c'est le chapitre 6, versets 2 à 13. Je suis le Seigneur, Yahvé, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme Dieu puissant, El Shaddai, mais je ne me suis pas fait connaître de Dieu sous mon nom Yahvé. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner Canaan. Il renouvelle ses promesses, le pays où ils ont séjourné en immigrés. Moi, j'ai entendu les soupirs des Israélites que les Égyptiens réduisent en esclavage. Je me suis souvenu de mon alliance. Donc quand vous êtes dans la difficulté, Dieu vous rappelle son alliance. Vous êtes dans la difficulté, mais moi, j'ai fait une alliance avec toi. Aussi, dit aux Israélites, je suis le Seigneur, je vous affranchirai des corvées, je vous délivrerai de l'esclavage auquel on vous soumet, d'un bras étendu, par de grands jugements, j'assurerai votre rédemption, je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu. Regardez comme c'est personnel. C'est incroyable, c'est un Dieu extraordinaire. Si vous comparez au Dieu de l'Égypte, là, les enfants vont voir la petite feuille que j'ai mis dans les cahiers, les dieux des peuples alentours, rien à voir avec ça. Rien à voir, mais alors, rien à voir. Vous voyez les dieux qui se chamaillent, qui s'arrachent les cheveux, qui se jalousent, enfin, c'est des inventions humaines. Mais le Dieu d'Israël, il est extraordinaire. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, etc. Moi, le Seigneur, je vous en donnerai possession. C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites, mais ils n'écoutèrent pas à cause de leur impatience sous ce dur esclavage. Combien de fois on n'arrive pas à écouter les promesses de Dieu parce qu'on est sous le problème? On est tous pareils, je crois là. Hein. J'ose croire que Josué avait peut-être une attitude différente, mais eux, ils ne voulaient plus écouter. Moïse dit au Seigneur, « Si les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon va m'écouter, moi ?» Et le Seigneur dit, montre à Moïse ce qu'il doit faire. Il va faire tout un tas de signes devant le Pharaon. Et les plaies vont commencer. Je saute un petit peu pour qu'on avance. Et Josué va voir ces fameuses 10 plaies d'Égypte. Miraculeuses. Alors les premières, les magiciens arrivent à en faire autant, puis arrivé à un certain moment, les magiciens ne peuvent plus. Dieu est plus fort et il leur montre sa supériorité extraordinaire. Il juge en même temps tous les dieux égyptiens. Les ténèbres contre le dieu soleil, le Nil qui était un dieu pour eux, ça se comprend d'ailleurs, hein, c'est lui qui arrosait les récoltes, le Nil de se tourne en sang, enfin on parlera de ça plus tard, mais il y a un jugement de Dieu, il y a 10 plaies qui s'étendent à peu près sur un an et demi, où le pharaon, à chaque fois que Moïse y va, s'endurcit, il dit oui quand ça va mal, et il dit non quand ça va bien. Quand la plaie est finie, ah non, vous allez rester là. Quand une autre plaie recommence, oh, allez, vous allez pouvoir partir, je vous libère, priez Dieu. Alors, Josué a assisté à tout ça. 20 ans, entre 18 et 20 ans, je pense, hein. D'après les critiques, etc. Il a vu ces 10 plaies. Il a vu les grenouilles. Il a vu l'eau changer en sang. Il a vu les ténèbres. Il a vu la grêle. Il a vu tous les ulcères. Et il a vu aussi comment Dieu épargnait les Israélites. Et qu'à la fin, les plaies n'étaient que sur les Égyptiens. Il a vécu tout ça très intensément. Vous imaginez? Vous voyez, vous promenez au milieu des maisons égyptiennes, vous allez chez un copain égyptien, c'est rempli de grenouilles. Ça encore, c'est pas trop, trop méchant, hein, sauf pour André, je crois qu'il n'aurait pas supporté. Moi, j'aime bien les grenouilles. Mais vous imaginez ce qu'il a vécu, voir les troupeaux de ses amis égyptiens, parce qu'il vivait au milieu des Égyptiens, hein, remplis d'ulcères, etc. les troupeaux qui meurent. Donc, il a vécu tout ça intensément. Et puis, je pense que ce qui a marqué Josué, plus que n'importe quoi, c'est quand, est-ce que lui était responsable de sa famille ou pas, on ne sait pas. On va imaginer que son papa était encore là et qu'ils obéissent à Moïse. Parce qu'après les plaies, hein, ils ont cru Moïse, hein. Ça j'ai oublié de préciser. Après les plaies, ils ont cru Moïse, ils ont arrêté de râler momentanément. Et ils ont cru Moïse, ils ont pris le petit agneau, ils l'ont gardé 4 jours chez eux, ils l'ont tué, ils ont pris le sang, ils l'ont mis sur les linteaux de la porte, ils l'ont rôti, ils l'ont mangé, habillé, comme pour partir en voyage. Ils avaient fait leur paquet, ils avaient tout préparé. Ça, je pense que pour Josué, ça a dû être quelque chose d'inimaginable. C'est la dernière plaie. L'ange de la mort va passer. Oh, il a dû penser à ses amis égyptiens qui étaient premiers-nés. Je suis sûre, d'ailleurs la Bible dit, hein, il y a des Égyptiens qui n'étaient pas fous. Ils ont fait pareil. Et ils sont partis avec eux. Ça a créé des problèmes après. Mais il y en a qui ont bien compris, parce qu'il y en a qui avaient compris avec les 10 plaies, que le Dieu des Juifs, le Dieu des Israélites, était extrêmement puissant. Et que ça n'a rien à voir avec les dieux de l'Égypte. Et beaucoup, la Bible dit, hein, que les Égyptiens qui ont fait pareil, ils ont été protégés. Amen. Et c'est là qu'il faut que vous reteniez ça, parce que souvent les gens disent, oh, dans la Bible, il n'y en a que pour les Juifs. Les autres peuples, ils n'avaient qu'à crever. C'est pas vrai. Déjà là, on voit que ceux qui voulaient, ils pouvaient. Et ils étaient associés, ils sont partis avec le peuple. Ils ont été protégés, l'ange de la mort ne les a pas touchés. Il n'y en a pas que pour les Juifs. Les Juifs étaient destinés à être la lumière pour les nations et entraîner les autres vers Dieu, même si parfois ils ont oublié. Mais c'était le plan de Dieu. Donc avec sa famille, ils ont préparé le départ, versé le sang, etc. Ils mangeaient l'agneau rôti, tout habillé, prêt à partir en voyage. Et vous savez que c'est une fête aujourd'hui encore chez les Juifs qui est très forte. Et cette fois-ci, le peuple respecte Moïse. Josué voit tous les Israélites qui s'inclinent et se prosternent et qui décident de faire exactement ce que Moïse avait ordonné. Exode 12, 28, c'est là que j'ai repéré ce verset. Exode 12, 28, qui dit « Le peuple s'inclina et se prosterna. Les Israélites s'en allèrent. Ils firent exactement ce que les seigneurs avaient ordonné à Moïse et à Aaron. » Ah, ce jour-là, hein, ils étaient obéissants. Résultat, ça s'est bien passé. Et puis, Josué a dû assister à cette scène extraordinaire. Alors, tous ceux qui ont vu les 10 commandements, le prince d'Égypte, vous avez une petite idée de ce peuple énorme, 600 000 hommes, qui a quitté l'Égypte avec ses troupeaux, ses serviteurs, femmes, enfants, grands-parents, dans des chariots, etc. C'était impensable, au milieu de la nuit. Et le plus incroyable, c'est qu'ils avaient tellement trouvé faveur au milieu des Égyptiens, donc je pense que beaucoup d'Égyptiens avaient dû croire dans le Dieu vivant et vrai. Ils avaient tellement trouvé faveur qu'ils leur ont fait des cadeaux, de l'or, de l'argent. Et vous savez, j'ai rigolé trop l'autre fois, je ne sais plus dans quel journal, je ne sais pas si c'était Le Point ou un magazine comme ça, qui disait que pendant il y a quelques années, les Égyptiens ont envoyé je ne sais quel papier à Israël en disant qu'ils aimeraient bien récupérer tout ce qu'ils ont emmené au moment du départ d'Égypte. Et j'ai été choquée parce que quand vous pensez qu'il y a des tas de gens qui n'y croient pas, qui disent que la Bible est une série de fables, ben visiblement, le gouvernement égyptien, non, il y croit. Ben, il a bien raison. Il a bien raison d'y croire. Mais ça m'a trop fait rire parce que je dis quand il y a tant de gens qui n'y croient pas et eux, ils se disent mais il y a peut-être quelque chose à récupérer. Et c'était dans un magazine tout à fait sérieux. Josué va donc vivre ce départ absolument inimaginable. Vous imaginez les troupeaux, etc. La colonne de nuée le jour, une sorte de nuage, et le feu la nuit pour les guider et les protéger. Parce que quand vous avez vu ça quand même, ça, hein. Josué a dû assister à la panique aussi quand l'armée de Pharaon s'est approchée. Il était visiblement près de Moïse à ce moment-là. Parce que dans les passages qui suivent, on va voir qu'il est devenu serviteur auxiliaire de Moïse, dit ma traduction. Donc, visiblement, quand la mer Rouge était devant eux et les Égyptiens derrière, c'est quasiment sûr qu'il était à côté de Moïse et qu'il a dû baliser. Parce que quand tout le peuple n'avait qu'une idée, c'était de tuer Moïse, parce que tu vois, maintenant, on est prisonnier entre l'armée et la mer. Qu'est-ce qu'il a dû penser le jeune Josué? Mais c'est pas possible. Alors tout à l'heure, tout le monde était prêt à s'incliner devant Moïse. Maintenant, ça y est, ils veulent le tuer. Donc je vous redis tout ça pour qu'on se baigne un peu dans ce qu'a vécu Josué. Et puis, passage de la mer Rouge, vous connaissez tous. Exode 14, 31, c'est ce merveilleux chant de victoire. Josué a dû le chanter avec le peuple. Vous le lirez, c'est absolument magnifique. Et après, il y a 3 jours de marche. On a soif. Qu'est-ce que fait le peuple? Il veut tuer Moïse. Dieu intervient. Josué était là. Après un mois et demi, ils veulent du pain et de la viande. Ils en ont marre de Moïse. Dieu intervient. Puis il y a Massa et Meriba, ils se révoltent, qui ont encore besoin d'eau. Moïse va frapper le rocher. Tout ça en 2 mois. Hein. Pouf, 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 pouf. Ça nous ressemble. Ah, on les critique, hein. Mais quand on a soif, quand on a faim, quand ça va pas, vous râlez jamais, vous? Aïe, 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 moi oui. Et puis, chapitre 17, on va s'arrêter là, versets 8 à 16. C'est là qu'apparaît pour la première fois le nom de Josué. Tout ce que je vous ai raconté, je le suppose, parce qu'il a bien fallu qu'il vienne de quelque part. Et comme je m'aperçois qu'il est tout proche de Moïse, je pense qu'il était déjà très proche au moment du passage de la mer Rouge. Chapitre 17, versets 8 à 16. À Riphidim, donc c'était juste après Massa et Meriba. Ils avaient râlé, ils avaient eu ce que Dieu, ce qu'ils voulaient, ils avaient eu de l'eau. À Riphidim, Amalek vint faire la guerre à Israël. Catastrophe! Non seulement ils ont eu soif, ils ont eu faim. Maintenant, c'est la guerre. Amalek, lui, était un descendant d'Ésaü. Alors Moïse dit à Josué, tiens, d'où il sort? Première mention de Josué. Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Oula, c'est un sacré raccourci, ça. On n'a jamais entendu parler de lui avant. Tout ce que je vous ai raconté, c'est ce qu'on suppose. Hein. Et voilà qu'il est à côté tellement à côté de Moïse que Moïse lui dit, bah, écoute, tu vois les ennemis là, choisis des hommes, sors et combat Amalek. Alors là, moi, je ne veux pas croire que ça s'est fait au hasard. Hein. Je pense que Moïse avait remarqué ses capacités de leader. C'est pour ça que je me demande s'il ne faisait pas partie de ces fameux leaders qu'il a rencontrés en arrivant, 2 ans avant, 1 an et demi avant. En tout cas, il a remarqué ses capacités de leader, parce que non seulement il ne lui donne pas les hommes, il lui demande de les choisir. Ben non, ce n'est pas évident hein, de choisir des guerriers quand vous n'avez jamais fait la guerre. Parce qu'en Égypte, hein, il n'avait pas appris l'art de la guerre, hein, ça j'en suis sûre. Et puis, j'imagine qu'il n'avait pas rouspété avec les autres dans les moments difficiles, c'est pour ça que Moïse lui faisait confiance. Et vous savez, on va revoir Marc Brisebois la semaine prochaine, c'est lui qui racontait cette petite anecdote. C'est quand on marche sur le tube d'un dentifrice qu'on voit ce qu'il y a dedans. Quand on appuie dessus. Et quand on est sous pression, c'est là qu'on voit ce qu'on a dans le cœur. Ouh, que c'est pas beau d'ailleurs. Il s'appuyait davantage, je pense, sur sa foi en Dieu que sur sa force. Parce que où est-ce qu'il aurait appris la guerre? Moi, j'aurais dit, mais attends, Moïse, non, mais on n'a jamais fait la guerre, on n'a rien appris en Égypte, on n'avait pas le droit de toucher à une arme, on était esclaves. Et la stratégie, où est-ce qu'il aurait appris ça? Donc, c'est clair, il s'appuyait plus sur sa foi en Dieu. Qualité de Josué que Moïse avait repéré. Donc je pense qu'il ne faisait pas partie des rouspéteurs. Et puis, il a vu que c'est seulement, on va voir dans cette histoire, que c'est seulement la prière de Moïse qui lui a donné la victoire. Il était obéissant à Dieu, et nous voilà sur notre obéissance, et à Moïse. Il aurait pu dire non, enfin moi à sa place, j'aurais dit non, j'ai jamais fait la guerre, non mais tu rigoles, non, non. Je ne vais pas choisir des hommes et partir à la guerre contre ces sauvages. Il avait vu Moïse obéir à Dieu, il avait vu les autres qui refusaient d'obéir quand c'était difficile. Lui, il a obéi quand c'était facile et quand c'était difficile. Il continue à obéir dans la difficulté. Oh, ça c'est difficile. Il s'appuyait visiblement sur les promesses de Dieu. Sinon, il n'aurait pas fait cette folie d'aller combattre une bande de brigands qui était exercée. Il a continué à se battre, et on va le voir dans le texte, on reprendra là la semaine prochaine. Vous vous souvenez, Moïse priait les bras levés, et puis évidemment, Moïse, il avait quand même 80 ans, hein, au bout d'un moment. Et il y a un moment où les Amalécites avaient le dessus. Alors, ça prend qu'un demi-verset, mais moi j'imagine la scène. Hein. Lui, il est en train de se battre avec ses hommes, puis il sent qu'il n'a plus le dessus. Il sent que ça n'a plus le dessus. Il voit les bras de Moïse qui sont tombés. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? J'aurais arrêté. J'aurais sorti le drapeau blanc. Terminé, qu'est-ce que vous voulez de nous? Non, il a continué à se battre. Et, grâce à Dieu, il y a 2 hommes qui sont venus soutenir les bras de Moïse. Et la bataille a pu reprendre et ils ont gagné. Et là, moi, j'admire la persévérance de ce jeune. Pas d'expérience, mais ce qu'il avait pour lui, c'était la fidélité et la persévérance. C'est fou, mais je ne l'aurais jamais fait. C'est fou d'avoir cette persévérance dans la bagarre. Parce que qu'est-ce qu'il savait que 2 personnes allaient soutenir les bras de Moïse? Il ne devinait pas. Hein. Lui, il était en pleine bagarre. Et je pense que de temps en temps, quand il jetait un œil sur la montagne, il voyait que, oh là là. Mais il continuait quand même. Même quand les autres avaient le dessus. Bon, ça m'a choqué. Hein. Pour un jeune, c'est sa première bataille. Sa première bataille. Il a continué à se battre. Et Dieu, alors, après, évidemment, ils ont la victoire. Hein. C'est important, d'ailleurs, de penser à la prière de Moïse pour ce petit jeune qui se battait en bas. Il ne l'a pas largué comme ça. Et nous, les plus âgés, je terminais là-dessus, on est appelés à prier pour nos jeunes, pour qu'ils gagnent la bataille en bas. Parce que c'est un peu facile de leur dire, allez, vas-y, hein, tu vas servir le Seigneur. Là, je dis à Samuel, vas-y, là, je sais, tu vas devoir rendre un témoignage. Tu vas devoir montrer que les valeurs du royaume de Dieu ne sont pas les mêmes que les valeurs de ces hommes d'affaires. Il va falloir être fort. Mais si nous, on n'est pas là, les bras levés vers le Seigneur, on dit, vas-y, allez, vas-y, va te faire tuer, hein. Non, si on ne veut pas qu'il se fasse écrabouiller, il faut qu'on lève les mains. Je pense que c'est pareil pour Sarah en prépa. Si on veut qu'elle rende son témoignage, qu'elle ait le dessus, bah, il faut qu'on ait les bras levés. Il faut qu'elle nous voie les bras levés aussi, pour savoir qu'elle n'est pas toute seule. C'est pareil pour Nirina dans ses études, c'est pareil pour chacune d'entre vous, pour Judith, pour tout le monde. Et la prière pour nos jeunes, si on veut qu'ils représentent les valeurs du royaume, parce qu'ils peuvent être persévérants, mais si c'est pour qu'ils soient écrabouillés, non. Non, de toute façon, Dieu ne le laissera pas, mais... Vous voyez, c'est important que nous, on garde les bras levés pour nos enfants. Parce qu'en bas, c'est la reine quand même. Hein. La reine, en un seul mot. Et Dieu, alors un tout petit coup d'œil de Dieu, j'ai bien aimé à la fin. Dieu dit quelque chose à Josué qui me fait plaisir. Et là, je retrouve le cœur de Dieu, son petit côté un petit peu sympa là. Il parle à Moïse, puis il dit, dis bien à Josué. C'est trop chou, dis bien à Josué. Que j'effacerai le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Pourquoi il a dit ça? C'est cette petite aparté, moi ça me plaît. Écoute, Moïse, il lui dit tout un tas de trucs, il dit, dis bien à Josué, passe-lui un message. J'ai les yeux sur lui, ça veut dire. Je le vois. Ouh, je l'aime bien celui-là. Dis-lui, et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Dieu n'a que des chouchous. Hein? Et dis bien à un tel, dis bien à Sarah, dis bien à Samuel, dis bien à Judith, dis bien à tous nos jeunes, à Emmanuel, dis bien. Que cet ennemi qui est en face de lui, je vais l'effacer. Amen. Après la prochaine, je suis en retard encore.
Juste un dernier mot, puisque Michel a parlé de ces dieux égyptiens. Dieu, quand il m'a dit en 98, c'est l'idolâtrie qui empêche que l'Église ne fonctionne. En même temps, dans le combat spirituel qu'on a mené, j'ai compris pourquoi il y a un poids spirituel sur la France. Hein. Je ne parle pas de l'Église. Hein, on le sent, les serviteurs de Dieu qui viennent, ils sentent ce poids et tout ça. Et quand on allait en Égypte, quand on va en Égypte, on sent le poids spirituel. Hein. Il y a un poids spirituel quand il y a l'adoration des idoles. Et je me suis aperçu qu'en fait, en France, on adore les mêmes idoles qu'en Égypte, hein, en tout cas nos leaders. Hein. En Égypte, il y avait deux grandes adorations, le Nil et le soleil. Et en France, c'est le soleil et la Seine. Et l'axe historique de Paris, c'est l'adoration de la Seine. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans Paris Match, François Mitterrand se fait baptiser dans la Seine. Il adorait la Seine. Et Jean Clang aussi, etc., avec les bouddhistes. Enfin, c'est très, très frappant. Et en 2002, quand justement Marc Brisois qui va venir, qui nous a aidés à combattre ici, eh bien c'est le crocodile, c'est le dieu de la Seine qui s'est manifesté ici, hein, et c'est celui-là qu'on a dû abattre. Vous voyez cette particularité qui montre que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc s'il y a ce poids spirituel, eh bien c'est l'idolâtrie, et nous avons besoin d'être comme des Josué, c'est-à-dire être sur la parole. Hein. L'idolâtrie n'est pas qu'en Afrique ou ailleurs, hein, elle est ici, même à plus haut degré. Et c'est pourquoi nous devons être sur la parole et dans l'obéissance pour vaincre ces divinités, ces dieux et cette adoration, et rentrer dans l'adoration de Dieu et apporter toute la gloire et construire les autels de louange que nous faisons dans ce pays pour que nous puissions eh bien, aussi sortir de ce pays et apporter le salut en Jésus-Christ à l'époque de ces Égyptiens et aujourd'hui aux Français. Que le Seigneur continue à nous aider dans cette étude de Josué, hein, où on va voir aussi la conquête de Canaan bientôt, qui nous donne, nous aussi, dans 2011, nous sommes dans la conquête de Canaan, avec l'évangélisation pour remporter des victoires et faire avancer le royaume.